Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
Ma révolution porte ton nom.
Qu'est-ce qu'un parti révolutionnaire ? C'est une organisation qui se propose de tout niquer méthodiquement.
Des lendemains qui chantent. Un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris. 93.9 FM.
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode des lendemains qui chantent. Aujourd'hui, on va continuer d'explorer le mouvement de la nouvelle chanson chilienne, mouvement politico-musical qui va marquer les péripéties historiques que va connaître le Chili des années 60. Si vous avez besoin de plus de contexte, n'hésitez pas à aller checker le premier épisode sur radiocampusparis.org. Mais bon, on va quand même ordonner un petit peu, vous inquiétez pas, et puis de toute façon, on est quand même là pour écouter de la musique avant tout. On s'était donc laissé sur l'idée que les artistes de la nouvelle chanson chilienne allaient participer au mouvement d'espoir qu'allait connaître le pays pendant la campagne de Salvador Allende en 1969-70. Mais avant de parler d'espoir et de qui est Salvador Allende, il faut bien comprendre d'où part le mouvement ouvrier au Chili, contre quoi il se bat et pourquoi il se bat, et surtout comment la nouvelle chanson chilienne va prendre part à ce combat. C'est ce qu'on va découvrir dans ce deuxième épisode des Lendemains qui chantent. Épisode 2. La lutte et l'espoir. Comme on l'a vu dans le premier épisode, la chanson a permis aux artistes de la nouvelle chanson chilienne de créer une culture commune, où le chant et la musique ravivent la culture ouvrière et militante. Le but de ce tournant culturel radical est de retourner les valeurs ancrées dans la société chilienne. Le mépris pour les petites gens, les travailleurs, les travailleuses, paysans et paysannes, se transforme en un mépris plutôt pour ceux qui les exploitent. L'admiration pour la culture étrangère devient un frein vers l'émancipation du peuple chilien, que ce soit du point de vue politique ou de l'art comme outil d'émancipation individuelle. Dans les chants de la nouvelle chanson chilienne, on entend l'espoir qu'advienne ce renversement des valeurs. Et ça se ressent dans beaucoup d'aspects de la chanson. Ça se ressent dans la manière dont sont traités les sujets, ancrés dans la réalité plus observable. Et donc nous, on va s'intéresser à deux chansons qui permettent d'illustrer ça. Elles traitent toutes les deux de sujets très différents. Dans la première, on a Victor Jara, qui parle d'une femme, Amanda, qui va voir son amoureux tous les jours à l'usine, lors de sa pause, et décrit sa joie à chaque fois qu'elle peut passer ses 5 minutes avec lui. Un jour, il s'engage dans l'armée et ne revient pas. Le texte de la chanson est très concis, pourtant tout le contexte social y est. On parle d'un ouvrier et de la femme qu'il aime. Ça pourrait être n'importe quel ouvrier, n'importe quelle femme. On parle de ses sentiments à elle, on se place de son point de vue, du point de vue de sa classe sociale. D'autres chansons, elles, héroïsent carrément la figure de l'ouvrier, de la militante. Donc on a par exemple « Elegía para una muchacha roja » de Patricio Mans, donc éloge à une militante de gauche de Patricio Mans, opérant un changement encore plus radical. Donc maintenant nous allons écouter « Te recuerdo Amanda » de Victor Jara.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él, son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Des lendemains qui chantent sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
De su historia, un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten la brea, el viento sur, los volantines, el pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza.
Vous êtes toujours dans l'émission Des lendemains qui chantent sur Radio Campus Paris et nous venons d'écouter Valparaiso de Osvaldo Rodriguez. On découvre cet artiste de la nouvelle chanson chilienne qui parle ici de sa ville natale, Valparaiso. Si je présente cette chanson, c'est pour illustrer ce que je disais juste avant, à savoir que la nouvelle chanson chilienne a pour but d'opérer une inversion des valeurs dans la manière de présenter les histoires, là en l'occurrence les villes, les gens, les rapports entre les gens dans la société. Dans cette chanson, Osvaldo Rodriguez présente la ville dans laquelle il a grandi, Valparaiso. Mais ici, on n'est pas face à une idéalisation nostalgique de sa vision d'enfant sur sa ville, mais plutôt face à un portrait réaliste, qui fait référence à la misère dont il a été témoin en évoluant ici, et au passé social de la ville. Il en parle de son point de vue, celui de quelqu'un qui a toujours vu la pauvreté de l'extérieur, dans sa propre ville. Je n'ai jamais rien su de ton histoire, j'y suis simplement né un jour. Le vieux port a veillé sur mon enfance avec un visage de froide indifférence. Parce que je ne suis pas né pauvre, j'ai toujours eu une peur effroyable de la misère. Ce qui est marrant avec ces vers qui débutent la chanson, c'est qu'à la base, la phrase « Parce que je ne suis pas né pauvre, j'ai toujours eu une peur effroyable de la misère », en fait, elle disait « Parce que je suis né pauvre, j'ai toujours eu une peur effroyable de la misère ». Et en fait, un ami de Osvaldo Rodriguez lui a dit « Alors déjà, numéro 1, t'es pas pauvre, et de 2, les pauvres n'ont pas peur de la misère, ils ont la rage, ce qui est très différent ». Pour en revenir à la chanson, dans sa description du port, on peut voir que chaque moment d'errance rêveuse se voit ramené à une réalité plus crue. Le brai, le vent dans les cerfs-volants, le pêcheur de crabes qui assombrit notre vue du bord de mer. On peut voir aussi que la mort et la tristesse font partie du paysage de la ville, elles sont ancrées vraiment dedans. Et la tempête est venue, et le crachin, chargé de sable et de déchets, la mort est souvent passée par là. La mort qui a endeuillé Valparaiso. Encore une fois, le vent a purifié, comme toujours, la figure de ce port meurtri. D'autres chansons ont été écrites sur ce port, qui est le premier du pays, et dont le nom veut littéralement dire « vallée paradis ». On a par exemple la Joya del Pacifico, le joyau du Pacifique. C'est une valse légère qui chante les louanges du port, les femmes de la ville qui sont comme des marguerites, du marin qui chante la chanson du port de Valparaiso. La vision de Valparaiso que l'on a, nous, dans la version qu'on a écoutée, est bien différente. Comme pour d'autres sujets, elle est donc l'exemple, comme ce que je disais, du changement dans la manière de parler de la ville et de la réalité. Là, il y a celle de l'auteur, mais il y a aussi celle de la société chilienne, qui est plus complexe, présentée plus crûment. Donc ces deux chansons illustrent une approche des artistes de la nouvelle chanson chilienne et de leurs espoirs. Parce que l'espoir des artistes de la nouvelle chanson chilienne, c'est rien de moins que de changer la perception de la réalité dans la culture de masse. Tout simplement, j'ai envie de vous dire. Et évidemment, ces changements voulus par ces artistes ont une portée et un débouché politique. Le cas de Quilapayún, un groupe majeur du mouvement, est intéressant pour voir comment les artistes ont joué un rôle de catalyseur politique, notamment pendant les élections. On les avait rapidement mentionnés dans le premier épisode, parce que Víctor Jara a été leur directeur artistique pendant quelques années. Comme beaucoup d'artistes de la nouvelle chanson chilienne, ils se sont connus à l'Université technique de Santiago et se sont formés en 1965. Initialement, le groupe compte 5 membres, d'où leur nom, qui veut dire en langue mapuche « les 5 barbus ». Ce nom en mapuche fait directement référence au folklore dont ils empruntent les instruments, qu'on a détaillé dans le premier épisode, le folklore indien donc. À leur début, ils se font connaître dans la peña de Angel et Isabel Parra, et puis la formation évolue, des membres partent et d'autres s'ajoutent, et donc là on a les membres les plus emblématiques de l'époque qu'on va regarder, Eduardo Carrasco, le fondateur, Carlos Quesada, Guillermo Garcia, Hernán Gómez, Hugo Lagos et Willy Odo. Au départ, ils affichent leur soutien au candidat communiste, le poète Pablo Neruda, qu'on a aussi mentionné dans le premier épisode, qui est la grande source d'inspiration pour eux, tant sur le plan artistique, littéraire, politique, et d'ailleurs pas que pour eux, pour beaucoup d'artistes de la nouvelle chanson chilienne. Mais en janvier 1970, la coalition des partis de gauche, l'Unité Populaire, créée en 1969 pour les élections, choisit Salvador Allende comme candidat, le fondateur du Parti Socialiste. Notre groupe a affirmé depuis ses débuts son attachement au prolétariat et n'a caché, ni ne cachera jamais, sa finalité politique. Cela vient du désir de demeurer toujours fidèle aux besoins de vérité qui poussent notre peuple vers l'aboutissement de son authentique réalisation historique. Tous les artistes qui ont la possibilité de le faire se doivent d'intégrer leur travail à la cause révolutionnaire. Avec elle, ils joignent non seulement leur responsabilité à la classe ouvrière, mais aussi leur art. La société bourgeoise voudrait que l'art soit un facteur supplémentaire d'asservissement. Les artistes doivent le transformer en une arme révolutionnaire, jusqu'à ce que la contradiction qui existe actuellement entre l'art et la société soit enfin effacée. Cet effacement se nomme révolution, et son moteur est la classe ouvrière. Ce texte figure sur la pochette du disque Basta, sorti en 1969, et tient lieu de manifeste, très clairement marxiste, pour Kwila Payoun. Quand il parle de révolution, il faut bien comprendre qu'il ne parle pas nécessairement d'une prise de pouvoir par les armes, comme on pourrait le penser, avec des exemples comme Cuba. Dans la théorie marxiste, la révolution fait référence plutôt à la prise de pouvoir de la masse de travailleurs, le prolétariat, sur la classe bourgeoise, la classe qui possède donc tout ce qui permet de produire, les usines, les propriétés ou les mines par exemple. La révolution, c'est donc un état transitoire qui amène à la mise en place d'un état socialiste, puis communiste, c'est-à-dire un état où les distinctions de classe disparaissent. Ici, ils appellent les artistes à s'engager dans le processus révolutionnaire pour faire disparaître l'art bourgeois, puisque si plus de classe, plus de bourgeois, si plus de bourgeois, plus d'art bourgeois, et plus d'art bourgeois, bah plus d'art bourgeois quoi. Donc tout ça pour que subsiste l'art, le vrai, celui qui est fait par toutes et tous et qui permet d'émanciper les individus. Pour en revenir à Allende, sur cette histoire de révolution, etc., lui, il est plutôt en opposition par rapport à d'autres membres de la gauche, parce que pour lui, cette prise de pouvoir, cette révolution, peut prendre plusieurs formes et ne passe pas nécessairement par la lutte armée. Lui pense qu'au Chili, ce renversement, en l'occurrence, doit se faire à travers des élections, et c'est ce qu'il a appelé la voie chilienne vers le socialisme.
Je l'ai dit dès avant notre victoire. La lutte révolutionnaire peut être le foyer guérillero, la guerre du peuple, l'insurrection et aussi bien les élections, selon le contenu qu'on leur donne. Pour certains pays, il n'y a pas d'autre possibilité que la lutte armée. Là où il n'y a pas de parti, pas de syndicat, là où il y a dictature, qui va croire à une possibilité électorale ? L'Amérique latine est un volcan en éruption. Les peuples ne peuvent pas continuer de mourir à la place de vivre. Tu sais très bien que sur ce continent, il y a 170 millions de semi-analphabètes et analphabètes. Tu sais qu'il manque 14 millions de logements, que 70% de la population est sous-alimentée. Potentiellement, nous sommes des peuples riches, très riches. Alors qu'en fait, nous connaissons le chômage, la faim, l'inculture, la misère morale et la misère physiologique. Les peuples d'Amérique latine n'ont pas d'autre issue que la lutte, chacun selon sa situation réelle, mais lutter. Lutter pour quoi ? Pour conquérir l'indépendance économique, pour être des peuples libres aussi sur le plan politique.
Donc là, on entend Salvador Allende qui nous parle de la voie chilienne vers le socialisme. Le mouvement de la nouvelle chanson chilienne se place du côté de l'unité populaire, donc. Il faut bien préciser que sur les dizaines d'artistes qu'on peut associer à ce mouvement, seuls quelques-uns sont partisans du MIR, le parti de gauche plus radical, qui ne voit pas les élections comme un moyen efficace de parvenir à la révolution, et qui va préconiser d'autres solutions comme l'auto-organisation, la création de communautés autonomes, ou des actions plus directes pour déstabiliser l'économie. La grande majorité du mouvement va plutôt se positionner donc en faveur de la campagne d'Allende. Mais c'est pas pour autant que leur musique va subitement se transformer en un simple exercice de propagande vulgaire, parce que chaque artiste garde sa propre sensibilité comme avant les élections, son propre vécu, et va l'exprimer différemment, chacun, selon ses textes, son style et ses sujets de prédilection. Ça change pas. De manière générale, et déjà encore une fois bien avant les élections, beaucoup de chants avaient déjà pour but de construire un espoir pour un projet politique. Et c'est le cas, notamment, de la chanson qu'on va écouter maintenant, qui imagine une société qu'on pourrait croire utopique, où tous les individus sont égaux. Et oui, rien que ça. Si depuis le début de cette émission, on a surtout écouté des chants où on entend beaucoup de rage ou de tristesse de la part des chanteurs et chanteuses, une grande partie des morceaux du mouvement font appel à la joie ou à l'humour dans leurs textes et leur musique, comme dans la chanson qu'on va écouter. Parce que oui, il faut bien le dire, on ne fait pas bouger une foule de gens complètement déprimés. Non, le moteur qui peut faire bouger les gens, c'est l'espoir en une vie meilleure, c'est de se sentir proche de ses semblables, de croire en un projet politique, de pouvoir chanter et danser en manif, de rire un bon coup en se foutant de la gueule de l'oppresseur qui semble si imbattable du haut de sa toute-puissance. Dans cette chanson, La Muralla, les paroles utilisent une métaphore, celle d'une muraille qui s'étend de la mer à la montagne et de la montagne à la mer jusqu'à l'horizon. Pour bâtir cette muraille, toutes les mains sont nécessaires, les noires comme les blanches. La muraille permet de choisir ce qu'on laisse entrer dans l'enceinte d'une société qui élève ses citoyens. À la colombée au laurier, on ouvre la muraille. Au cœur de son ami, on ouvre la muraille. Au sabre du colonel, on ferme la muraille. Ce morceau joyeux, interprété par Kwila Payoun, est sorti sur l'album Basta, dont on a parlé plus tôt. En plus de compositions originales, cet album regroupe des reprises de musique révolutionnaire italienne, de la guerre d'Espagne ou encore de la révolution mexicaine. Ils avaient déjà sorti un album un an auparavant, X Vietnam, qui dénonçait déjà les guerres impérialistes et d'où toutes ces références à des événements de l'histoire mondiale et des pays exploités par les pays occidentaux. Par rapport à ça, c'est intéressant de noter que les paroles de La Muralla, qu'on va écouter tout de suite, ont été écrites par Nicolas Guillén, auteur cubain qui a carrément été décrété poète national par Fidel Castro en 1961. C'est aussi lui d'ailleurs qui avait rédigé le poème Soldadito Boliviano qu'on avait entendu mis en musique dans le premier épisode. Tous ces liens qu'on peut voir se tisser entre les artistes de différents pays du monde, qui racontent tous le mouvement ouvrier mondial et font référence à des épisodes de l'histoire d'autres pays, tout ça c'est pas étonnant. Parce que dans chacun de ces pays, ils ont eu pour point commun de lutter contre l'impérialisme, contre le capitalisme, et donc de porter des espoirs très proches malgré leurs histoires différentes. On peut notamment citer le succès de la révolution cubaine, qui est un symbole très fort chez tous les intellectuels de l'Amérique latine, en tout cas ceux de gauche, et qui représente la possibilité d'échapper aux mains des capitalistes étrangers et de permettre au peuple de déterminer leur politique et leur économie par eux-mêmes. Mais on en reparlera plus précisément après. Tout de suite, La Muralla de Kwila Payoun.
Thank you. son tontes.
Una rosa y un clavel abre la muralla. El sable del coronel cierra la muralla. La paloma y el laurel abre la playa. El gusano y el cien pies cierra la muralla.
Alcemos esta muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.
Una rosa y un clavel
abre la muralla.
Tuntún que dé.
El sable del coronel cierra la muralla.
Tuntún que dé.
La paloma y el laurel abre la muralla.
Tuntún que dé.
El gusano y el cien pies cierra la muralla.
Tuntún que dé.
Abre la muralla.
Des lendemains qui chantent sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons avoir le plaisir de vous présenter cette version populaire, folklorique, panamienne, pas du tout objective, de la malheureuse histoire du canal de Panama. Personnage principal dans cette histoire, un méchant et vilain monstre. C'est un oncle, l'oncle Caïman, monstre bouffeur, insatiable, inlassable, impérialiste par-dessus le marché. On va vous demander de partager cette vision de l'histoire. Ça sera quand même une façon de vous engager un peu dans notre chant avec cet oncle Caïman, qu'on le chantera tous en espagnol en disant « Tio Caïman ». Essayons une fois tous ensemble avec moi « Tio Caïman ». C'était pas mal, mais un peu plus fort quand même. On y va. « Tio Caïman ». Beaucoup mieux quand même. Maintenant, on va passer à la répétition musicale.
Yo tenía mi casa chica,
Tío Caimán,
clavada entre mar y mar,
Tío Caimán,
pero vino la tormenta,
Tío Caimán.
Oh là là, c'est beau comme tout, on va y aller.
Casa chica,
Tío Caimán,
clavada entre mar y mar,
Tío Caimán,
pero vino la tormenta,
Tío Caimán,
y con ella el Tío Caimán,
Tío Caimán.
Tío Caimán.
De sur al norte se abrió,
Tío Caimán.
La parcela que allí estaba,
Tío Caimán.
El caimán se la tragó,
Tío Caimán. Tío Caimán. Tío Caimán.
Su bandera,
Tío Caimán,
y la mía me la quitó,
Tío Caimán.
Yo le dije, Tío Caimán,
Tío Caimán,
eso no lo aguanto yo,
Tío Caimán, Tío Caimán.
Tío Caimán hablaba inglés,
Tío Caimán,
y andaba por todo el mundo,
Tío Caimán.
Y en cada sitio que iba,
Tío Caimán,
metía su colmillo inmundo,
Tío Caimán. Tío Caimán.
Vous êtes toujours dans l'émission Des lendemains qui chantent sur Radio Campus Paris et on vient d'écouter La Muralla de Quilapayún et Tío Caimán de Quilapayún. Donc, on a beaucoup parlé d'impérialisme, mais concrètement, comment ça impacte le Chili et sa population ? Et surtout, qu'est-ce qui, dans le programme d'Allende, va tenter de s'en défaire ? Eh bien déjà, l'impact principal, c'est que les entreprises qui possèdent les usines, les mines et les propriétés agricoles sont principalement des entreprises étrangères, américaines et européennes. Donc non seulement la production de la valeur des travailleurs leur est retirée comme dans toute société capitaliste, dans tout État capitaliste, mais en plus quand l'entreprise vend le fruit de la production, les profits et les marchandises ne restent même pas au sein du pays pour être réinjectés dans l'économie. Tout ça part pour être vendu ailleurs et l'argent revient aux entreprises étrangères. Ça fait que même si le Chili a largement de quoi nourrir sa population, il est obligé d'importer de la nourriture. Ça fait que même si c'est l'un des pays qui exporte le plus de cuivre sur la planète, l'argent de son commerce, eh ben, il lui revient pas. En contrepartie, le pays voit ses travailleurs souffrir de conditions de vie déplorables. Les mineurs, par exemple, souffrent au profit de riches exploitants à l'autre bout du monde et voient leurs dirigeants faciliter le processus depuis des décennies. Il y a de quoi un peu vouloir que ça change.
Nous aurons le pouvoir quand le cuivre sera chilien, quand le fer sera chilien, quand le salpêtre sera totalement chilien. Quand nous aurons fait une véritable réforme agraire, rapidement et profondément. Quand l'État contrôlera le commerce d'importation et d'exportation. En un mot, nous aurons indiscutablement le pouvoir quand le Chili sera un pays économiquement indépendant. De là, notre ligne fondamentale, l'anti-impérialisme, et notre projet fondamental, nationaliser les richesses essentielles du pays.
Donc nous venons d'entendre Salvador Allende en 1971. Donc pour en revenir au cuivre, parce que c'est un exemple très éloquent par rapport au Chili, vu que c'est sa principale ressource économique, il y a une chanson qui illustre très très bien cette problématique, qui est Nuestro Cobre, donc notre cuivre, de Quilapayún, sortie en 1972, c'est-à-dire moins de 2 ans après l'élection d'Allende. Donc il aura réussi à ce moment-là à nationaliser les mines de cuivre. Dans cette chanson, le groupe fait référence à l'histoire des luttes ouvrières, aux mineurs morts dans ces mines, et se réjouit de voir le cuivre enfin chilien. Notre cuivre, né dans les collines et volé par des mains étrangères, échangé contre de l'argent. Ce n'est pas le Chili qui a bu ta sève, ce ne sont pas les mineurs, et ils t'ont transformé en canon et t'ont retourné contre le peuple. Notre cuivre, maintenant tu es chez toi, et la patrie t'accueille avec émotion, avec du vin et des guitares. Comme un enfant qui n'a jamais imaginé la joie d'être un homme, tu as vaincu pour le bien des Chiliens. Nous ne serons plus pauvres, de tes fruits naîtra une nouvelle vie, des temps meilleurs viendront. Le cuivre est à jamais entre les mains des travailleurs.
Thank you. carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte, empapado de sol y de montañas, motivo de los hombres, y mezclado con la sangre y con el alma de todo un pueblo pobre. Nuestro cobre, nacido entre los cerros y robado por manos extranjeras, cambiado por dinero. No era Chile quien bebía de tu savia, no eran los mineros, y te hacían cañón y te ponían en contra de los pueblos. Nuestro cobre ahora estás en casa, la patria te recibe emocionada con vino y con guitarras. Son tus dueños los mismos que murieron, ¿por qué no te llevarán? Y de aquí ya no te mueven ni con sables, ni tanques, ni metralla. Nuestro cobre,
d'écouter Nuestro Cobre de Quila Payun dans Des lendemains qui chantent sur Radio Campus Paris. Comme je l'ai rapidement évoqué, après une campagne mouvementée, Allende est élu le 4 septembre 1970. Mais le problème, c'est qu'il est minoritaire au Parlement et que l'élection doit être validée par un vote à l'Assemblée. La droite, qui possède une grande partie des médias, fait alors campagne contre l'arrivée d'un gouvernement socialiste au pouvoir pendant les quelques semaines qui précèdent le vote. L'armée, elle, se divise. D'un côté, on a une partie qui souhaite intervenir dans la vie politique, en empêchant ainsi Allende de devenir président, en faisant en gros un coup d'État, hein, on peut l'appeler comme ça. Hein. Et de l'autre, on a les constitutionnalistes qui pensent que, tant qu'une élection est légale, l'armée n'a pas à intervenir. Quant au parti de l'ancien président Eduardo Frei, la démocratie chrétienne, il occupe le centre de l'échiquier politique et son positionnement est donc déterminant pour l'élection d'Allende par le Parlement. Ils finissent par passer un accord avec l'Unité Populaire en demandant une garantie qu'Allende respecte la Constitution pendant son mandat. Mais deux jours avant que l'élection s'officialise, le chef des armées, René Schneider, un constitutionnaliste donc, est assassiné par des militaires interventionnistes. Et ceci, il s'était allié avec qui ? Roulement de tambour, les États-Unis, qui leur ont fourni des armes dans une tentative de déstabiliser le pays. Le but clair de la manœuvre est d'empêcher l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement socialiste en incitant l'armée à faire un coup d'État. Et c'est logique, au-delà des intérêts économiques directs que les États-Unis risquent de perdre avec ce nouveau gouvernement, avec les expropriations d'usines, etc., les dirigeants américains sont convaincus que la mise en place d'un État communiste dans une région peut conduire à une propagation idéologique aux pays voisins. Dans ce contexte de guerre froide, ils sont particulièrement sur les dents depuis Cuba, et ne parlons même pas du Vietnam. Donc malgré cet événement tragique, Allende devient président le 24 octobre 1970 et le chef des armées est remplacé par un autre constitutionnaliste. Ouf.
Nous savons très bien que les classes minoritaires qui détiennent le pouvoir ne le lâchent pas, je ne dis pas facilement, elles se refusent à le lâcher. Ici au Chili, entre mon élection et mon installation au pouvoir, nous avons vécu dans un climat permanent de conspiration organisée, planifiée. Je l'ai déjà dit publiquement, pendant ces deux mois, je n'ai pas été un homme qui se préparait à prendre en main le gouvernement, j'ai été un chef de la sûreté.
Le climat est tendu, mais le gouvernement commence à travailler sur les réformes essentielles pour transformer l'économie chilienne. Certaines lois sont votées sans trop de soucis, comme la nationalisation des mines de cuivre, qui est relativement acceptée par les différents bords politiques. Mais dans d'autres cas, le fait que l'unité populaire soit minoritaire au Parlement demande d'user de techniques pour le contourner de manière légale. Donc par exemple, pour nationaliser les banques, le gouvernement rachète les parts des entreprises sans avoir à consulter le Parlement du coup. Pour réformer le système agricole, il utilise une vieille loi de l'ancien président qui permet d'exproprier les terres abandonnées ou mal gérées et il pousse les compteurs à donf pour l'utiliser au maximum.
Il y a moins de 10 ans encore, 600 personnes possédaient à elles seules 60% des terres cultivables. La richesse agricole des provinces verdoyantes du Sud était pratiquement entièrement aux mains des grands propriétaires terriens. Les démocrates chrétiens, sous Eduardo Frei, avaient déjà commencé d'appliquer une réforme agraire. Les propriétés mal gérées étaient expropriées et transformées en coopératives agricoles autonomes. Mais la gauche unie a accéléré le processus. Les propriétaires ne peuvent plus garder en principe qu'une réserve de 80 hectares pour leurs besoins personnels. Le surplus est transformé en coopérative, entièrement gérée par les ouvriers agricoles, aujourd'hui maîtres des terres qu'ils travaillent. Les entreprises contrôlées par l'État, aux mains des travailleurs, comme disent les banderoles affichées aux façades, donnent la priorité aux améliorations sociales. Ainsi, des jardins d'enfants ont été aménagés pour permettre aux femmes de travailler sans souci. Des assistantes sociales ont été engagées, des médecins, des dentistes aussi. Les soins y sont entièrement gratuits.
Une chose est sûre, c'est que pendant cette période, la révolution culturelle, elle, bat son plein. Le gouvernement lutte énormément contre l'analphabétisme des classes les plus défavorisées et pousse la production culturelle un max. Un train de la culture sillonne le pays pour donner des représentations théâtrales gratuites dans les villages les plus reculés, et la publication de livres d'auteurs nationaux est boostée par la maison d'édition du gouvernement. Mais surtout, ce climat d'expression complètement désinhibé va faire que des initiatives naissent par elles-mêmes dans tout le pays. Il y a d'abord des brigades d'artistes qui peignent des fresques colorées sur les murs des villes, et des spectacles de rue se créent spontanément. Il faut dire en même temps que les travailleurs, dont les conditions de vie se sont améliorées, ont plus de temps libre pour se préoccuper de faire de l'art ou même de s'y intéresser. Et évidemment, le mouvement de la nouvelle chanson chilienne va bénéficier de ce bouillonnement culturel. On peut même dire que le vœu de Quilapayún qu'on a entendu tout à l'heure sur leur disque Basta commence à prendre forme. Le peuple se joint au mouvement et les gens commencent à chanter par eux-mêmes, à trouver leur voix. Le groupe, qui se voit décerner le titre d'ambassadeur culturel du Chili, rien que ça, par le nouveau gouvernement, ouvre même des écoles de musique pour inciter les citoyens à s'exprimer par eux-mêmes. Des travailleurs et travailleuses organisent des concerts où ils reprennent des tubes de la nouvelle chanson chilienne, mais surtout, ils commencent à créer leurs propres chansons et à organiser des festivals où ils se présentent eux-mêmes. Victor Jara raconte. J'étais présent au festival de Textile Progreso et j'étais très ému en écoutant les chansons originales des camarades qui appelaient à la solidarité, qui expliquaient les problèmes qu'ils avaient avec leurs machines et qui évoquaient leurs compagnons de travail. Celui qui ose prétendre que le peuple ne possède pas d'expression musicale fait le jeu de l'impérialisme et de la réaction. D'autres évolutions traversent le mouvement. En 1970, le groupe Quilapayún, encore eux, sort la cantate de Santa Maria de Iquique et ce disque va avoir une influence sur tout le mouvement musical. Il signe une certaine maturité du mouvement qui lui permet d'explorer des formes musicales plus inattendues, plus exploratoires on va dire. Donc là en l'occurrence, on parle d'artistes ayant une formation de musique plus classique, plus européenne, et on peut même parler de culture bourgeoise, parce que la forme de culture légitime par excellence, bah, c'est quand même la musique classique. Tous ces compositeurs, ils viennent enrichir le son de la nouvelle chanson chilienne. Et on pourrait se dire que c'est pour la rendre plus respectable, mais en fait, absolument pas. C'est vraiment comme pour tous les autres artistes, mettre leur propre art au service de la cause politique défendue. Et c'est ainsi que Luis Advis écrit et compose cette cantate interprétée par Quilapayún. D'une durée de 45 minutes, l'album raconte l'histoire d'un massacre, celui de l'école Santa Maria de Iquique. La ville d'Iquique, c'est la ville de naissance de Luis Advis. Mais cet épisode de l'histoire qu'il choisit de nous conter a eu lieu 18 ans avant sa naissance, en 1917.
Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Pasó en el norte grande, fue Iquique la ciudad, 1907 marcó fatalidad. Allí al pampino pobre mataron por matar. Allí al pampino pobre mataron por matar.
Los hablantes diremos la verdad, verdad que es muerte amarga de obreros del salar. Recuerden nuestra historia de duelo sin perdón, por más que el tiempo pase, no hay nunca que olvidar. Ahora les pedimos pongan atención, ahora les pedimos que pongan atención.
Et donc nous venons d'écouter Pregón, le premier morceau de la cantate de Santa Maria de Iquique, chantée par Quilapayún. Donc cette cantate raconte l'histoire de la grève des mineurs de Salpêtre au nord du Chili en 1917. Donc cette œuvre dure 45 minutes et les morceaux sont entrecoupés soit de morceaux instrumentaux mais aussi de récits contés par un narrateur qui relate cette histoire. Celui-ci expose notamment la misère des conditions de vie des mineurs à l'époque, l'horreur du traitement et de l'humiliation réservée à ceux qui se rebellaient contre les patrons qui les possédaient littéralement. À cette époque, il faut bien se dire que tout était fait, tout était organisé, tout le système était organisé pour dissuader les mineurs de risquer leur travail en se rebellant. Ils étaient complètement dépendants de l'usine, les patrons possédaient littéralement leur maison, ils n'étaient même pas payés en argent mais en coupons d'alimentation pour s'approvisionner directement par le biais de l'épicerie de l'usine, qui était aussi possédée par le patron, et les patrons avaient leur propre système de police. La soumission des travailleurs et de leur famille était totale. Je cite le narrateur, « La loi du patron, c'est la loi sacrée. » Et c'est évidemment ça qui va les pousser à réclamer de meilleures conditions de travail. Pour cela, une grève générale est déclenchée le 10 décembre 1907 dans la mine de San Lorenzo, puis s'étend progressivement à d'autres. Entre le 10 décembre où la grève est déclarée et le 20 décembre, des milliers de travailleurs de plusieurs villes minières rejoignent Iquique à pied. Et bientôt, entre 8000 et 10000 hommes, femmes et enfants se retrouvent dans la ville. Depuis que les premiers grévistes sont arrivés, le maire de la ville leur a mis à disposition l'école Santa Maria, le temps que les négociations aboutissent. Le 20 décembre, continuant de voir de nouveaux grévistes affluer, le maire déclenche l'état de siège avec un couvre-feu qui impose aux mineurs et à leurs familles de rester dans l'école. Un petit groupe de plusieurs familles tente alors de partir de la ville. Les soldats ouvrent le feu et font 6 morts. Le lendemain, après les funérailles, les grévistes sont sommés de quitter l'école pour un autre lieu, qui est cette fois en ligne de mire des militaires déployés pour rétablir l'ordre. Évidemment, il refuse de s'y rendre. Les militaires annoncent alors ouvrir le feu le 21 décembre à 15h30 si les mineurs ne bougent pas. Les mineurs choisissent de rester. À 15h45, l'ordre est donné d'ouvrir le feu. En l'espace d'une minute trente, entre 2200 et 3600 femmes, hommes et enfants trouvent la mort.
Señoras y señores, aquí termina la historia de la escuela Santa María. Y ahora con respeto les pediría que escuchen la canción de despedida. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad.
Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resueltos para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear. Tenemos las manos duras, tenemos con qué ganar. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, que nadie más ha de ser.
No es el pobre amigo, es peligroso.
El pobre amigo es peligroso.
No hay ni que hablar, amigo, es peligroso.
No hay ni que hablar, amigo, es peligroso.
Como hermanos que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más ha de ser.
Unámonos como hermanos que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos, y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que podemos tener. Luchemos por lo que es nuestro, que nadie nos ha de ser. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. Como hermanos que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 FM en train d'écouter l'émission Des lendemains qui chantent. Et nous venons d'écouter Canción Final de Quilapayún. Cette chanson finale de la cantate de Santa Maria de Iquique sert directement d'avertissement à l'auditeur. Je cite: vous qui avez écouté notre histoire, ne restez pas assis en pensant que c'est du passé. Se souvenir ne suffit pas, chanter ne suffit pas, pleurer ne suffit pas. Regardons la vérité en face. Demain peut-être, ou plus tard, ou dans des temps futurs, la même histoire se répétera. Le Chili est un pays si grand que mille choses peuvent arriver si, résolus à lutter, nous n'y prenons pas garde. Unissons-nous en frères, et pourquoi pas en sœurs d'ailleurs, et personne ne nous vaincra. S'ils veulent nous asservir, ils n'y parviendront pas. La terre appartiendra à tout le monde, la mer aussi nous appartiendra. La justice sera la même pour tous, et tout le monde jouira de liberté. Nous luttons pour des droits que tout le monde devrait partager, Nous luttons pour ce qui nous appartient et ce qu'on nous a ôté. L'histoire que cet album raconte, c'est celle, très classique, de la bourgeoisie prête à tout pour défendre ses intérêts. Et c'est l'histoire que les artistes qu'on a écoutés dans ces deux épisodes vont subir de plein fouet. C'est l'histoire de possédants déchus qui, pour retrouver tous leurs privilèges, sont prêts à sacrifier les conditions de subsistance de leurs propres concitoyens. Le prix à payer pour y parvenir, s'allier aux fascistes.
Je lui demandais si sa vie pouvait encore être en danger. Et ce qui arriverait à son avis si l'ennemi intérieur ou extérieur réussissait à le faire mourir.
Je crois que la bourgeoisie part d'une erreur qui fait de l'homme le facteur essentiel dans un processus social. Nous, nous savons que c'est le peuple, que ce sont les masses. Ce qui n'empêche pas qu'un homme peut avoir une influence déterminée à un moment donné. Eux, ils croient, et de cette croyance, ils font presque une tactique, qu'en éliminant un homme, un politique, un dirigeant, le mouvement social va disparaître. C'est une erreur. Le mouvement pourrait être retardé, ralenti. Ils ne pourront pas l'arrêter. Pour le Chili, bon, s'il m'assassine, le peuple suivra sa route. Avec la différence que les choses seront plus dures, plus violentes. Parce que pour le peuple, ce sera une leçon très claire, très objective. Que ces gens-là ne reculent devant rien.
Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que ses sources, les paroles des chansons qu'on a passées avec leur traduction, sur radiocampusparis.org. Et puis il y a une source qu'il faut absolument que je cite en particulier, qui m'a beaucoup aidée sur tous les sujets de politique, et qui rentre beaucoup plus en détail sur toute la politique d'Allende et sur tous les processus politiques à l'œuvre au Chili. C'est la chaîne de Oui D'accord qui a fait toute une série de vidéos sur le Chili. Donc je vous conseille vraiment d'aller les voir, c'est vraiment extrêmement bien expliqué et vulgarisé. Et voilà, bah sinon moi je vous conseille aussi d'aller sur la playlist de l'épisode, parce que moi j'aime pas du tout faire des choix et que j'ai dû en faire plein, donc il y a plein de morceaux super que vous pouvez retrouver dans cette playlist. Et puis moi je vous dis à dans un mois pour des lendemains qui chantent.